scène est plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg. Il y a d'autres autres Il pleut sur Nantes. Donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous. Et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Tu la connais l'histoire. Il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre. Je veux que tranquille il repose, je l'ai couché dessous les roses. Mon père, il pleut sur Nantes, et je me souviens le ciel de Nantes rend.
Barbara, bien sûr, dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, je voulais qu'elle nous emmène à la gare de Lyon, histoire de sauter dans le premier train pour partir pour n'importe quelle destination, pourvu que ce soit les vacances. Mais le CD n'a pas voulu, alors c'est une histoire bien plus triste, mais très belle, de Barbara, que nous avons entendue. Nous continuons, quant à nous, notre parcours dans la construction de la masculinité, grâce à Daniel Welser-Lang, qui avait été invité par le département d'études sociales, études de genre en printemps dernier. Il a parlé tout juste précédemment de la paternité, du rôle des pères que discutent certains hommes. Et puis, bien sûr, on parle, il faut bien aussi envisager les problèmes de la maternité, mais aussi au travers du regard des hommes et peut-être de certaines chercheuses aussi.
Paola Tabet est une anthropologue féministe italienne qui travaille sur la maternité. Elle dit, on a confondu deux choses. C'est dans le bouquin de la raisonnement des femmes qui est sorti par le HESS. Elle dit, on a confondu deux choses. Le fait que les femmes puissent mettre les enfants au monde et le fait qu'elles soient normalement faites pour les élever. Elle montre que cette faculté soi-disant naturelle des femmes est complètement manipulée par les hommes et par le social. Autrement dit, d'une culture à l'autre, les normes d'éducation des enfants vont changer, mais l'éducation auquel on se consacre les femmes est sous le contrôle des hommes. Mais dans ce type d'éducation-là, le père, biologique ou social, est absent de l'élevage des enfants. Alors, aujourd'hui, je m'arrêterai là après sur les hommes, parce qu'il y a eu un certain nombre de luttes. Il faut savoir que jusqu'en les années 70 en France, par exemple, une mère, une femme qui avait un enfant, le père avait tous les droits sur l'enfant, y compris quand il n'y avait pas de mariage. Pire que ça, un homme, sans même l'accord de sa femme, pouvait aller reconnaître l'enfant et en être responsable. Imaginez le plaisir. Vous accouchez toute seule, un mec va faire la déclaration à la mairie et il devient responsable de votre enfant. Les lois ont changé. Les lois qui étaient des lois sexistes, qui cantonnaient les femmes dans la maternité, ont changé. Et il semblerait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de problèmes à régler en ce qui concerne les droits de garde des enfants. Et que là-dessus sont créés des associations de pères divorcés. Alors deux mots, c'est compliqué parce que autant nous qu'on a pris la pilule pour hommes et après dans les groupes d'hommes, on a travaillé sur la paternité, sur le fait qu'on voulait des paternités différentes, qu'on voulait passer du temps avec nos enfants, qu'on n'avait pas envie forcément d'éduquer nos garçons comme des petits machos. Autant on était d'une génération militante et radicale qui ne s'est pas mariée, qui s'est battu pour obtenir de la justice l'autorité parentale conjointe et pour dire à la justice, ça nous regarde, foutez-nous la paix. Moi, on vous verra, mais on se portera. Ce qui fait que là, les crises autour du mariage ont été vécues par des hommes qui s'étaient mariés, déjà, et des hommes et des femmes qui s'étaient mariés. Donc, ce n'était pas n'importe quelle génération. Deux, des hommes et des femmes, souvent, qui ont des schémas très stéréotypés au niveau de l'élevage des enfants et au niveau des rôles hommes-femmes. Et on a eu comme ça des hommes qui se sont découverts une fibre paternelle au moment du divorce. Il y a les travaux d'Anne-Marie Devreux qui montrent comment des hommes qui réclament la garde de leurs enfants, et quand ils l'obtiennent, s'empressent de remettre leurs enfants aux gardes d'une autre femme, leur nouvelle ou la lignée féminine, leur mère, etc. Et on a eu des associations fascisantes et réactionnaires qui ont utilisé le différent sur la garde des enfants comme une attaque en règle contre les femmes et le féminisme. Le mouvement pour la coalition masculine en France, qui est lié au Front National et financé par des fonds du Front National, revendique qu'on soit moins crédule quand les femmes portent plainte pour viol et demande à ce que les femmes qui veulent prendre la pilule aient l'autorisation de leur mari. Ça veut dire que sous prétexte du droit de garde et d'un problème social qui est réel, il transforme ça en organisation contre les droits des femmes. Le mouvement pour la coalition paternelle nous dit que les premières personnes qui enlèvent les enfants, c'est les femmes. Les femmes raptent les enfants à leur mari. Donc, il est normal que les hommes s'organisent pour rapter leurs enfants et leurs enfants à leur tour. Il n'y a pas... Il y a eu quelques organisations progressistes de pères divorcés. Je sais qu'il y avait un groupe à Grenoble qui n'a pas duré longtemps. Il y a très peu de réflexion progressiste autour de comment on a fait des enfants ensemble, comment on va gérer à long terme les enfants. En sachant, moi j'ai un monde qui a 18 ans, que de toute façon, il y a intérêt et pour l'homme et pour la femme qui est accord. En cas de conflit, les mômes sont assez grands pour manipuler tout le monde et faire payer très cher aux femmes le fait d'avoir élevé seul leur enfant à un moment ou à un autre, ou pareil sur les pères. Enfin, c'est au niveau du réseau européen de profilistes, on dit que c'est un sujet qu'on doit arriver à discuter entre hommes et femmes. Et il faut qu'on se mette d'accord autour d'une table. Et de fait, il n'y a pas de raison de favoriser une loi plus sexiste qu'une autre, ou désavantager un genre par rapport à l'éducation des enfants. Mais il n'y a pas non plus de raison de cautionner des machines de guerre qui sont en train de se mettre en place contre le féminisme. Alors, au niveau du travail, je crois que ce que je vais dire est assez connu. On arrête à quelle heure, hein?
Si vous voulez garder une discussion. Oui.
Ah, vous allez vite, alors. Bon, c'est clair, hein, c'est tout nouveau qu'on nous parle, le travail domestique. Pour les hommes, le travail, c'était l'extérieur. C'était semblé logique, comme homme pourvoyeur. Et les femmes faisaient des activités de bonne femme, les tâches ménagères. C'est vraiment à partir du colloque de Mexico, donc 82, que des féministes sociologues conceptualisent le travail domestique, qui, si on, alors, en fonction de différentes analyses, n'est pas si réduit que ça, hein, entre 33 et 77% du PNB en France. C'est-à-dire, s'il fallait payer en valeur sonnante et trébuchante, le travail domestique fait gratuitement et en grande partie par les femmes, il faudrait augmenter entre 33 et 77% du PNB. Donc c'est une industrie qui est prometteuse et qui est importante. Alors, juste deux trucs pour éviter les contresens. Nous, on essaie de regarder ce qui changeait du côté des hommes et l'espace domestique. Avec Jean-Paul Filiot, on a été vivre chez les garçons. On s'est installé comme ethnologue avec notre cahier et notre stylo. Et moi, j'étais à ce moment-là, j'habitais dans une petite piole et je voyais une dame qui faisait ses carreaux tous les jours. Et je lisais les travaux des sociologues féministes, Fougérola, etc., sur le travail domestique, et je trouvais qu'elles avaient raison, mais en même temps, je ne voyais pas pourquoi... est-ce que c'est vraiment utile de faire des carreaux tous les jours? Et comme je suis un garçon et que j'ai vécu dans des milieux mixtes, notamment des milieux communautaires, je sais qu'il y a toujours un problème sur le propre et le rangé. Que ce que moi je considérais comme propre et rangé, les copines qui vivaient avec moi ne le considéraient pas toujours comme propre et comme rangé. Et quand il y a quelque chose, un constat comme ça empirique, qu'on peut généraliser ou qu'on peut faire auprès de plusieurs garçons et plusieurs filles, on peut se dire qu'il y a quelque chose de notre entité sociologique là-dedans. Donc on a été vivre auprès de garçons qui vivaient, certains en couple, d'autres en groupe, d'autres seuls, et on s'intéressait à qu'est-ce qui faisait qu'un homme nettoie. Donc on leur a demandé aux hommes, pourquoi tu nettoies? Et quand on vit chez des mecs, c'est vachement bien, parce qu'on peut leur demander en même temps qu'ils font. Ce qui est différent d'un questionnaire extérieur. On s'est rendu compte que les hommes nettoient quand ils voient que c'est sale. Et quand un mec prenait le balai ou l'aspirateur, il pouvait nous montrer ce qui était sale. Les rouleaux de poussière sous le lit, la couche de saleté sur la guitare, le fait de ne plus avoir d'assiette propre, donc avoir l'évier rempli de vaisselle, c'est sale. Bon. Chacun a sa propre norme, mais c'est comme s'il y a un moment, c'est trop. Et à ce moment-là, les hommes disent que c'est sale, et pour ceux qui s'occupent du travail domestique, ils nettoient. Quand on a interrogé les femmes de ces hommes qui vivaient avec ces hommes-là, elles disaient, elles, qu'elles faisaient un ménage beaucoup plus régulier. Elles faisaient un ménage une fois par semaine, elles nettoyaient avant que ça soit sale, avant que ça soit trop sale. C'est là où les hommes nettoyaient, quand ils voyaient que c'était sale, leurs compagnes nettoyaient avant que ça soit trop sale. Si vous venez chez moi, je vis seul. C'est le bordel complet. C'est toujours des termes à connotation sexuelle qu'on utilise pour le propre et le rangé. Hein. C'est le foutoir, etc. C'est le bordel complet au sens où il y a plein de piles de bouquins, de papiers, mais c'est normal, je suis un garçon. Donc c'est très poétique, un garçon, le désordre. Les garçons, on ne nous a pas trop appris à ranger, on nous a appris à ne pas mettre trop de désordre. D'accord ? Là, on a appris à nos sœurs à ranger. Ça serait le même appartement tenu par une femme. Si c'est sale chez elle, est-ce que ça ne serait pas sale en elle, quelque part? Et on a l'habitude d'intérioriser, d'assimiler l'espace domestique d'une femme à son intérieur psychique, quelque part. Il y a une pression sociale, pour le dire vite, sur les femmes, pour que leur ordre domestique corresponde au d'ordre normal pour une femme, telle que la société a décidé que ce serait propre pour une femme. Et ces ordres-là sont en asymétrie. Et quand ce n'est pas votre parentèle, c'est votre voisinage, c'est vos amis qui vous disent ce qui est en ordre et ce qui est en désordre, ce qui est propre et ce qui est sale. on n'est pas sur les mêmes ordres symboliques du propre et du rangé des garçons et des filles. Ce qui pose d'ailleurs une autre question. Qui est-ce qui a raison ? C'est-à-dire, dans un groupe mixte, un couple, ou même plus largement, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de violence entre hommes et femmes, est-ce que si je vis avec une nana et qu'elle me dit « c'est dégueulasse, je devrais ranger tes affaires », est-ce qu'il faut forcément que je m'exécute ? On s'est rendu compte que dans les couples sur lesquels on travaillait ou les groupes communautaires, on arrivait à des modèles, il y a un bouquin là-dessus, hein, vous pourrez le lire, on arrivait à un modèle à autonomie concertée. Chacun et chacune avait son propre territoire, physique, mais aussi territoire professionnel, territoire affectif, et on négociait les normes du propre et du rangé sur les territoires qui étaient réputés communs, où là, chacun et chacune faisait des compromis, de manière à ce que ça se passe le moins mal possible, et on intègre le fait que quand les parents ou les beaux-parents viennent, ça doit être plus rangé qu'autrement, etc. etc. Mais chacun et chacune a son propre territoire, ce qui n'est pas le cas d'un espace domestique traditionnel. Dans un espace domestique traditionnel, qu'est-ce qui se passe ? L'homme, il a quoi ? Alors, si on prend un espace avec le séjour, hein, en général, l'homme, il a, si on prend la TV, la table, il a une place à la table, bien devant la télévision. C'est quoi ? Comme espace à lui, on est d'accord que l'espace qui serait à moi, c'est un espace où je peux mettre mon bordel comme je veux, où personne ne me fait des remarques sur mon ordre symbolique de rangement, d'accord ? La femme a la cuisine, en général, sa cuisine, qu'elle aime bien fermer. Alors, c'est sous des prétextes de pollution, hein, pour que ça sente, parce que les mauvaises odeurs, c'est pas rangé, etc., qu'on ferme les espaces, d'accord ? En réalité, elle nous décrit la cuisine comme un espace de refuge, là où elle est à l'abri du regard du mari, qui est souvent un regard contrôlant. C'est son territoire à elle. Et c'est seulement son territoire à elle qu'elle organise les choses de telle manière qu'il n'y a qu'elle qui sait où elles sont les choses. Ce qui fait que, comme ça, si les enfants ou le mari veulent trouver quelque chose, ils sont obligés de passer par elle. L'homme, il nous parle d'un autre territoire où est-ce qu'il est tranquille, c'est les WC. Et dans les WC, là, quand la porte est fermée, il a la paix. Il y en a qui me l'a dit, comme ça pue, elle me fout la paix. On se rend compte que dans les territoires, dans les nouveaux appartements où vivent des groupes plus progressistes, il y a ouverture de la cuisine et ouverture des WC. Et en même temps, apparition d'un mode de rangement très clair avec étagères, beaucoup de verres, etc., de manière à ce que tout le monde voit où sont les choses. Un ordre de rangement très clair. Regardez le succès d'IKEA, vous comprenez de quoi je parle. Et les WC s'ouvrent non seulement parce que souvent on enlève les portes, mais parce qu'on continue à parler aux gens quand ils sont dans les WC. C'est plus un lieu de repli total. Et en même temps, alors là où avant l'homme avait aussi son atelier, hein, et la voiture, comme espace périphérique, on a mixation de ces espaces-là. Autrement dit, on arrive à lire un espace domestique aussi sur les modes de contrôle de cet espace domestique et comme des espaces refuges. Dans l'espace domestique très clivé, j'en reviendrai cet après-midi, c'est en général un espace où l'homme est violent aussi. Il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on a, nous, découvert des hommes violents uniquement en lisant la manière dont est organisé l'espace domestique. Et dans la femme, s'organiser un espace de refuge dans l'espace domestique. J'aurais-il que ça pose une question sur comment on va vivre ensemble ? Je ne sais pas, moi, si on pourra vivre ensemble entre hommes et femmes rapidement. Je sais qu'entre mouvements féministes et mouvements sexistes masculins, on a mis une fois pendant 6 ans, on ne s'est pas parlé, entre 79 et 85, on ne pouvait pas se parler, on vivait ensemble, on vivait dans les mêmes groupes. Au niveau théorique, on n'était pas un état où on pouvait se parler, si ce n'est qu'on est proche d'intention, ce n'était pas intéressant. Donc, sur le comment on va vivre ensemble plus tard, ça veut dire qu'on va essayer de résoudre ça. Alors, quand même, sur la sexualité, dire quelque chose. C'est clair que le modèle masculin, les modèles traditionnels, hein, c'est un modèle militaire. Un modèle de cow-boy ou de footballeur. Reich parlait de cuirasse caractérielle. Vous savez comment on insensibilise la peau des hommes. Comment l'éducation masculine, dans les cours d'école, les groupes de sport, font que, de toute façon, on a intérêt à se blinder. C'est très compliqué que d'apprendre à jouer au football, je signale, paraît-il. Moi, j'ai vite renoncé, parce qu'on reçoit plein de coups. qu'on apprend à dribbler. C'est, bon. Et, ça, bon. Et en plus, si on chiale à ce moment-là, ou si on dit qu'on a mal, pas possible. Si on est un petit garçon, on n'est pas une gonzesse. Il y a une pression sur les petits garçons pour qu'ils ressemblent aux vrais petits garçons. Dans l'étude qu'on a faite avec Pierre Duthet sur l'homophobie, on a interrogé beaucoup d'hommes, et on voulait interroger des hommes normaux, beauf, moyen. Et le cahier des charges, au départ, c'est la culture TF1. Pour nous, ça nous parlait, ce que ça veut dire en France, et sur les événements marquants de leur biographie personnelle. Alors, contrairement à ce que peuvent croire les mamans, les garçons nous parlaient très peu de leur mère. Je sais que les femmes se sentent responsables de tout ce qui arrive aux garçons. Les garçons ne parlaient pas de leur mère. Ou parlaient un peu du milieu parental, mais parlaient surtout de l'éducation entre hommes. Des moments où ils apprennent à jouer au sport, des moments où ils sont confrontés aux autres garçons, des moments où il faut qu'ils montrent sans arrêt que c'est des garçons. Comme si, alors ce que moi j'ai appelé après la maison des hommes, en référence aux travaux de Maurice Godelier, comme si il n'y avait pas de point neutre dans cette maison des hommes. On est avec les plus grands ou avec les plus faibles. Et dans cette maison des hommes, le plus faible, le plus fragile, sert un peu de bouc émissaire. C'est sur lui que tout le monde tape. C'est lui qui va servir de main-d'œuvre à tout le monde. Comme si c'était une menace collective pour tous les hommes. Si tu veux être comme une femme, comme une femmelette, comme une gonzesse, on va te traiter comme telle. Et pour qu'un garçon soit bien considéré par ses pairs, il faut qu'il mime les modèles masculins. Les modèles masculins, c'est quoi ? C'est le footballeur, c'est le prof de gym, c'est le grand sportif qu'on voit dans les médias, c'est aussi les grands chanteurs. Il y a des modèles directs, quand on pense au chef scout ou au curé qui entraîne sa troupe le dimanche. Il y a aussi des modèles qui sont transmis par les médias. Ce qu'on a découvert, c'est que c'est une source de souffrance énorme pour les hommes. Et je sais qu'il y a plein d'hommes qui seront par la suite violents avec les femmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première violence que les hommes exercent, c'est entre eux. Et si on oppose la violence que les gens subissent entre eux et la violence qu'ils vont exercer sur les femmes, on ne comprend plus rien. J'ai été attaqué par un groupe pro-féministe américain qui m'a dit que quand je parlais des hommes, forcément, je maltraitais les femmes et je voulais s'y maîtriser. C'est-à-dire que quand un homme, pour eux, c'est un groupe très minoritaire, quand on est pro-féministe, il ne faut pas parler des hommes, il faut parler des femmes, il faut soutenir les femmes. Et moi je dis, si à nouveau on ne parle pas des hommes, à quoi on sert, quoi. Les hommes ont l'habitude de parler des femmes entre eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on change de discours et qu'on accepte de parler aussi comment nous, on est éduqués comme garçons. Et quand on travaille sur l'éducation masculine, on se rend compte qu'il y a toute une pression sociale, physique, violente, pour que les garçons se conforment au rôle masculin. C'est ça que j'ai appelé l'homophobie. Comment on dévalorise, on stigmatise chez les garçons ce qui est considéré comme qualité ou des défauts chez les filles. Je pourrais approfondir. Hein, comment on dit à un garçon si tu veux, tu dois être le maître chez toi, par exemple, et en même temps, on ne doit pas battre une femme, même avec une rose. Comment on va créer un certain nombre d'injonctions paradoxales qui vont structurer le masculin, qui fait que l'homme, quelque part, il ne s'y retrouve pas. C'est vachement dur d'être le maître chez soi si de temps en temps on ne le montre pas. Il faut le jure. Donc du coup, les hommes violents sont obligés de temps en temps de montrer que c'est eux qui ont le pouvoir. La violence, pour moi, c'est qu'un symptôme. C'est le problème ou un problème important, mais c'est que le symptôme de la domination. Ce n'est pas la violence qu'il faut supprimer, c'est la domination qui fait qu'il y a la violence qui régule les rapports sociaux. Dans la sexualité, on va reprendre ça. On va dire à l'homme, t'es l'actif. La femme va être le passif. La femme ou son équivalent symbolique. Vous savez, on pourrait le faire ici rapidement. On l'a fait avec Duthet, demander aux gens, prenez une feuille. Avez-vous rencontré des personnes dans la rue en vous disant que ces personnes-là sont homosexuelles ? Oui ou non ? Deuxièmement, de qui s'agissait-il, d'hommes ou de femmes ? Troisièmement, à quoi vous les avez reconnus ? En général, on ne voit que des hommes homosexuels, comme si le lesbianisme était invisible, ou comme si le lesbianisme n'était pas une vraie sexualité. Comme disait un violeur, elles se font guili-guili entre elles. Hein. là où il n'y a pas de phallus, est-ce qu'il y aurait vraiment une sexualité? Je vous renvoie, toute la porno hétéro est pleine de scènes de femmes entre elles. Vous verrez dans le bouquin sur l'homophobie, si vous l'ouvrez un jour, j'ai décrypté une nouvelle de Gérard de Villiers, un SAS, où le héros arrive enfin à convaincre deux femmes lesbiennes. Naturellement, les femmes étaient lesbiennes parce qu'elles avaient mal été baisées. Ce que le héros de Gérard de Villiers saura faire est transformer enfin une sexualité normale des femmes homosexuelles. Et c'est un peu un fantasme qu'ont beaucoup d'hommes hétéros. Hein. Donc on ne reconnaît que des hommes dans la rue qu'on déclare homosexuels. Et comment on les reconnaît? Ils parlent comme des femmes, ils sont habillés comme des nanas, ils ne sont pas très virils, quoi, quelque part. C'est tous des signes de féminitude. Ouvrez des revues gays. Je pense qu'il y en a à Genève. Vous verrez le modèle des gays aujourd'hui. Pique moustache, cheveux courts, d'un machisme incommensurable. On a complètement confondu l'homophobie. Les signes de féminitude chez les hommes et l'appartenance aux homosexuels. Mais comment faut l'interpréter? C'est que symboliquement, dans l'éducation masculine, dans les valeurs masculines, qui n'est pas un homme viril est comme une femme. Le problème n'est pas tant d'appartenir au groupe des hommes ou au groupe des femmes, mais d'appartenir ou non au groupe des dominants. Et le groupe des dominants, c'est les hommes. Les autres, ils sont au groupe des dominés, ils sont assimilés aux femmes. J'ai une étudiante qui a fait une étude sur reprenant ces hypothèses-là, sur les garçons coiffeurs, disant, en définitive, les mecs sensibles dans la maison des hommes, ce que je disais, ils se rendent vite compte qu'il faut qu'ils se planquent, ou qu'ils se trouvent des niches dans le social pour se protéger. Pensez aux modistes, à la haute couture, etc. Donc elle va interroger des garçons coiffeurs, des patrons de coiffeurs, des coiffeurs assez connus à Toulouse. De fait, c'est des homosexuels, un peu efféminés, un peu grande folle même pour certaines. Vous remarquerez le terme au passage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a folie quand un homme veut être à des caractères féminins. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces hommes-là? Eh bien, même étant complètement dominés dans le genre masculin, ils disent, nous, on est des grands coiffeurs, et les femmes, c'est juste bon à être shampoigneuses. C'est-à-dire que, même s'il y a l'homophobie, structure les rapports homme-homme, à l'image hiérarchisée du rapport homme-femme, même un homme très dominé dans le groupe des hommes, puis agressé, il y a des agressions homophobes en permanence, hein, il y a des hommes qui perdent leur vie là-dessus. Pour se distinguer des femmes, l'homme va réappeler les catégories hiérarchiques traditionnelles du féminin et du masculin. Sauf que l'homophobie permet de comprendre que la structuration du genre masculin et la structuration du pouvoir des hommes sur les femmes ont le même type d'origine sociale. Et arrêter de cliver en deux choses qui seraient opposées, des choses qui sont des mêmes processus. Je voudrais remarquer que je n'ai pas abordé encore le problème de l'homosexualité ou la question de l'homosexualité, ce qui n'est pas vraiment un problème. Juste deux remarques. À mon avis, on était un peu vite en besogne dans la science. Vous savez, dans l'enquête nationale sur la sexualité des Français et des Françaises, il fallait à tout prix trouver des bis. Les bis, c'est le nouveau groupe à la mode. Donc, il fallait en isoler sur les 20 000 personnes 200 et en trouver à peine 40. Dur. Moi, quand je suis dans les backrooms gays, les saunas, j'aime assez bien, d'ailleurs, je trouve que des hétéros. Mais qui baisent avec des mecs. Mais des hétéros, quand même. Bon père de famille, etc. Quand on a travaillé sur la prostitution lyonnaise, donc, je vous passe, il y a 300 femmes, 300 personnes prostituées encore à Lyon, 100 femmes du centre-ville. Il y a le Rhône et la Saône. Il y a donc le centre-ville, il y a 100 femmes très traditionnelles encore. Elles travaillent en studio, elles font des relations sexuelles complètes, des pénétrations, elles sont encore très maquées. Et puis il y a les quais du Rhône. Les quais du Rhône sont un peu bizarres et les gens qui nous ont demandé l'enquête ne comprenaient plus grand-chose parce qu'ils voyaient apparaître de drôles personnages. Les travestis, transsexuels, les belles femmes, les femmes canons, comme disaient les clients sur les quais du Rhône, c'est des hommes. À Lyon, une femme prostituée sur trois au moment de notre recherche était un homme de naissance. Et quand on monte, parce que nous, chez Ethnologue, on montait dans les voitures des clients. Et on a comme ça un client qui descend une copine prostituée, qui est un beau travesti. Et on monte dans sa voiture et on lui dit, mais on discute. Il est un peu étonné parce qu'on était un garçon et une fille, il pensait monter un couple. Donc on monte, il dit bonjour, on est chercheur, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Il y a un petit malaise, puis bon, il rigole, il dit ah, vous m'avez bien eu. Et on fait le tour, puis on lui dit mais là, il y a beaucoup de travestis ici. Oui, oui, mais je sais, moi je les repère, de toute façon je ne me fais pas avoir, hein, je suis pas un PD moi. Et on lui dit mais la personne que vous venez de monter, ah, c'est une femme. Je vous jure, c'est une femme, quand même. On dit ok, on fait le tour, on redescend, on va voir la personne prostituée, on lui demande qu'est-ce qu'elle lui a fait. Il dit, oh, c'est simple, j'ai fait une fellation, une pipe à 100 balles. Et en plus, il a touché, il m'a filé 100 francs de plus pour toucher mon pénis, ma queue. À 3 minutes d'intervalle, le client qui monte avec un travesti, et pour qui l'intérêt érotique, c'est le travesti, parce qu'il touche, il paye 10 sacs pour toucher le pénis du travesti, est capable de dire que, absolument pas, c'est une femme qui vient de monter. Je vous dis, 3 mois après, par interview par téléphone, que ça peut donner comme renseignement et comme validité des sources. On a un problème, aujourd'hui à Lyon, 50% des femmes prostituées sont des hommes. Quand j'ai sorti ça en France, on m'a dit « Ah, vraiment, Lyon, c'est une ville bizarre. » dans toutes les villes de France qu'on se permet de compter le nombre d'hommes et de femmes prostituées de rue, on se rend compte qu'on a les mêmes proportions. Sauf qu'aujourd'hui, la prostitution de rue, je suis obligé de passer très vite, je suis dommage, tend à disparaître, notamment au profit des clubs d'échangistes, donc au profit des clubs non-conformistes. Aujourd'hui, pour un mec, être client de prostituée, c'est plus génial. Dans vos générations à vous, le mec qui rentrerait chez lui en disant « Ah, je suis... » Enfin, qui dirait ? Qui rentrerait chez lui dans un public mixte, avec des copains, on peut encore le dire. Et qui rentrerait et qui dirait « Ah, j'ai été tiré un coup, c'était pas mal. » Quelque part, s'il est client de prostituée, c'est qu'il n'est pas assez bel homme, dragueur, pour pouvoir baiser son payé. Donc, on préfère se déclarer libertin.